Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Après une semaine passée dans les vignobles et les chais, nous vous proposons, comme chaque vendredi, un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de l'inflation disparue. Voilà des années que la Banque Centrale Européenne mène une politique monétaire dite non conventionnelle. L'objectif, relancer l'inflation afin que celle-ci approche le plus possible des 2%, un taux jugé optimal pour la bonne santé de l'économie. Or, dans la zone euro, la hausse des prix dépasse à peine 1% cette année, et cela malgré le retour de la croissance et la baisse du chômage. Un mystère que les économistes peinent à expliquer et qui provoque de nombreux débats en Europe et aux États-Unis. Alors faut-il abandonner la cible de 2%? L'inflation est-elle condamnée à rester basse dans nos économies marquées par la faible hausse des salaires et le vieillissement de la population? Et quel rôle les banques centrales peuvent-elles encore jouer dans la hausse des prix? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h50, nous accueillerons Nahiri Nahapétian, notre partenaire d'Alternatives économiques. Et pour parler de la hausse des prix dans l'économie, trois invités autour de la table. Bonjour Agnès Benassi-Kéré.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'école d'économie de Paris. Pour discuter avec vous, Philippe Simoneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, ancien professeur d'économie du droit à l'université de Nanterre et de Versailles. Et enfin Christophe Blau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Depuis ma dernière audition au sein de ce Parlement, nous avons révisé à la baisse les perspectives d'inflation pour l'ensemble des perspectives. Dans les projections de mars 2019 et encore une fois en septembre, nous avons vu que l'activité économique se détériorait et que les prix d'énergie diminuaient. L'inflation devrait se situer autour de 1,2% en 2019. 1% en 2020 et 1,5% en 2021, selon nos prévisions, c'est-à-dire nettement en dessous de l'objectif de proche de 2%, mais en deçà. Donc, quand le Conseil des gouverneurs s'est réuni il y a 15 jours, il a été confronté à une détérioration plus rapide et plus profonde que prévu. Une réaction politique monétaire ferme était dès lors nécessaire. Conformément à notre mandat, nous avons dès lors décidé d'un paquet de mesures globales pour veiller à ce que l'inflation s'achemine vers notre objectif de façon durable.
Le discours de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, ce lundi, un discours visant à justifier les mesures de relance monétaire annoncées il y a 15 jours, baisse du taux de dépôt de moins 0,4% à moins 0,5%, relance du programme d'achat de titres, ce qu'on appelle le quantitative easing, et prêt avantageux aux banques. Ce sont donc des mesures, Christophe Blau, qui visent à relancer l'inflation.
Oui, effectivement, c'est bien l'objectif annoncé par Mario Draghi et de la Banque Centrale Européenne qui est d'essayer de remonter l'inflation vers la cible qui est de 2%, enfin proche de 2%. Et donc, effectivement, il y a un ensemble de mesures qui passent par des baisses de taux d'intérêt, par des achats d'actifs qui vont conduire aussi à baisser les taux d'intérêt, mais plutôt de plus long terme, et des opérations dites de refinancement aux banques en fonction des crédits qu'elles vont allouer à l'économie, et donc qui sont censées stimuler aussi le crédit, et donc par ce biais-là, finalement, essayer d'atteindre la cible d'inflation de 2% de la Banque Centrale Européenne.
L'objectif, Agnès Benassi-Kéré, c'est de provoquer une hausse de la demande afin de tirer les prix vers le haut.
Oui, alors c'est une longue chaîne. Dans l'immédiat, l'idée c'est de stimuler le crédit aux entreprises et aux ménages, stimuler la prise de risque, c'est-à-dire le fait que les intermédiaires financiers investissent dans des entreprises plutôt que dans des bons du trésor, donc prennent plus de risques et encore une fois financent l'économie à coût très bas. L'objectif c'est aussi de baisser l'ensemble des taux d'intérêt, pas seulement les taux d'intérêt de court terme du marché interbancaire, donc le taux d'intérêt auquel se prêtent les banques les unes les autres, mais également les taux d'intérêt à plus long terme et notamment d'essayer de les faire baisser par rapport à l'inflation qui est anticipée. C'est pour ça qu'il passe son temps à dire on va garder une politique très accommodante pendant très longtemps. On va en reparler. Mais l'idée, c'est que les marchés, les ménages, les entreprises se mettent à anticiper une inflation qui remonte, alors que les taux d'intérêt, eux, ne remontent pas. Et donc, c'est l'écart entre les deux qui va bénéficier à l'économie réelle. Puisque, si vous prenez un emprunt, mettons, à 2%, vous empruntez 100 à 2%, l'année prochaine, il faudra rendre 102. Et si votre salaire a augmenté de 2%, tout va bien. Si votre salaire a augmenté de 1%, ça va moins bien. Mais ce serait vraiment bien qu'il augmente de 3%.
Ce qui est important à retenir, Philippe Simonneau, c'est cette notion de long terme. Le fait que la BCE, effectivement, annonce des taux d'intérêt qui devraient être très bas, voire négatifs, très longtemps.
Écoutez, je voudrais dire tout de suite que cet objectif d'inflation à 2% n'a strictement aucun sens, aucune justification, ni théorique, ni pratique. Donc c'est une invention, on va en faire l'historique tout à l'heure, mais je veux dire, ça ne repose sur aucun raisonnement économique connu. Voilà. Alors maintenant, sur l'application de cette politique, je note que on ne parle jamais de l'inflation camouflée. Il y a une inflation camouflée.
Pourquoi ? Alors, en quoi ça consiste ?
Tout simplement parce que, normalement, étant donné la mondialisation, le progrès, la digitalisation, le progrès technologique, nous devrions avoir des baisses de prix. Et ces baisses de prix ne sont pas constatées sur le marché, justement parce que on est autour de 0 ou 1%. Donc, si disons, la baisse de prix aurait dû être de 2% en moins, c'est-à-dire que nous avons en fait une inflation de 3%. Donc on est sur de faux calculs.
C'est plutôt l'inverse. L'INSEE a fait des travaux, il y a des travaux internationaux sur le biais d'inflation. Effectivement, il y a un biais de mesure de l'inflation, mais il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on mesure une inflation à 1%, et c'est bien ça, c'est pour ça qu'on est inquiet, quand on mesure une inflation à 1%, en réalité, elle est inférieure à 1%.
Et donc, on va se demander pourquoi cette inflation est aussi basse. Ça, c'est un point important. Parce que,
non, mais ce que je veux dire, attendez, excusez-moi, je veux dire qu'elle est camouflée. Elle est camouflée.
Non, la désinflation est camouflée, pas l'inflation, désinflation. Maintenant, si on va sur les prix, il y a souvent une confusion, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Là, on mesure les prix à la consommation. Maintenant, le fait que les prix immobiliers montent très vite, ce qui est une réalité, ça n'est pas les prix à la consommation,
non,
c'est les prix à l'investissement.
Je vais parler des biens de consommation.
Alors, on va parler justement du fait que cette inflation aujourd'hui stagne dans la zone euro, elle est autour de 1%, et cela alors même que la politique monétaire menée jusqu'ici par la BCE, cette politique non conventionnelle visait à relancer cette inflation. Comment on explique aujourd'hui cette situation, Agnès Benassi-Kéré, cette inflation disparue?
Alors, il y a plusieurs explications qui sont en concurrence. Rien n'est véritablement établi aujourd'hui. On est vraiment à la recherche de l'inflation, notamment... Bon, en France, on pourrait comprendre, il y a encore du chômage. Bon, même si les entreprises ont du mal à recruter, on peut comprendre un petit peu que les salaires n'augmentent pas vite. Mais en Allemagne, où il y a plein emploi, on devrait avoir une hausse forte de l'inflation.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est ce lien, effectivement, entre le chômage et l'inflation. C'est quand le chômage diminue que les salaires augmentent. Ça, c'est ce que nous dit la courbe de Phillips.
Oui, alors normalement, on peut comprendre assez facilement, quand les employeurs ont du mal à trouver la main-d'œuvre, ils vont se faire une surenchère et proposer des salaires plus élevés. Et donc, ça fait monter les salaires. Les salaires augmentant, ça doit faire monter les prix. Alors, les salaires augmentent un petit peu, mais ça s'enclenche pas sur les prix. Et on a vu, et même quand on a des poussées inflationnistes qui viennent par exemple du pétrole, ça ne s'enclenche pas sur les prix non plus. Aux États-Unis, où on est au plein emploi de la main-d'œuvre, on voit pas, il y a un peu plus d'inflation, mais il n'y en a pas énormément non plus. On ne comprend pas complètement pourquoi. Alors, il y a des explications conjoncturel. Enfin, c'est sûr que les incertitudes par rapport à l'économie mondiale, aussi bien la guerre commerciale, le Brexit, le ralentissement chinois...
Ça explique une consommation assez faible qui ne pousse pas, qui ne tire pas les prix vers le haut.
Voilà. Mais et l'incertitude aussi des entreprises qui attendent. On a vraiment un investissement qui est faible. Un peu plus fort en France d'ailleurs, mais qui est quand même relativement faible partout dans les économies avancées. Et on ne comprend pas, avec des taux d'intérêt si bas, pourquoi l'investissement est si médiocre.
Pour rester un instant sur cette question du lien entre la baisse du chômage et l'augmentation des salaires, est-ce qu'il faut considérer, Christophe Blot, que la courbe de Phillips ne fonctionne plus, ou est-ce que cette hausse des salaires est simplement retardée ?
Alors, si on regarde un peu la littérature et les travaux empiriques, académiques sur le sujet, globalement, ce que ça montre, c'est que la courbe de Phillips continue à fonctionner. Alors, probablement de façon moins forte que dans les années 70 ou 80, où finalement, une baisse du chômage avait un impact plus élevé sur l'inflation. Aujourd'hui, ça serait globalement moins le cas, mais l'effet serait globalement toujours supposé être significatif. Un peu plus faible, mais toujours significatif. Ce qui veut dire que probablement, si l'inflation reste basse, il y a une interrogation sur effectivement est-ce qu'il continue à y avoir une insuffisance de la demande et un niveau de chômage finalement encore trop élevé. Donc il faut, dans ce cas-là, effectivement des politiques qui viendraient stimuler l'activité économique pour réduire un peu le niveau du chômage dans l'économie de la zone euro et dans certains pays en particulier. Après, il y a d'autres éléments. On a parlé de la mondialisation qui peut être un facteur effectivement désinflationniste. Et il y a un dernier élément peut-être qui est la situation ou les situations sur le marché du travail. Les marchés du travail ont connu d'importantes modifications dans les 20-30 dernières années. Alors, c'est pas un mécanisme, c'est pas quelque chose de récent, mais qui conduisent à des formes de précarisation de l'emploi, avec finalement des contrats sur des durées plus courtes de travail, dans des entreprises de plus petite taille, dans lesquelles le pouvoir des syndicats est peut-être un peu plus faible, et donc ce qui va réduire le pouvoir de négociation des salariés, soit parce que finalement, quand ça va un peu mieux, ils préfèrent travailler un peu plus plutôt que de gagner un peu plus, soit parce que finalement, il n'y a pas de relais, un pouvoir de négociation suffisamment fort, des représentants des salariés, pour essayer de gagner un peu plus de salaire, qui permettrait ensuite, éventuellement, d'être transmis au prix. Et peut-être que pour finir, finalement, quand on voit que les salaires augmentent un peu, ce qui a été un peu le cas ces derniers mois selon certaines économies, aux États-Unis par exemple, bah, la transmission se fait peut-être pas. Alors peut-être que là, encore une fois, il y a le côté mondialisation qui empêche les entreprises finalement de trop monter leurs prix et de préférer ajuster un peu leurs marges pour éviter effectivement de perdre des parts de marché ou de face à une concurrence qui est plus forte aujourd'hui dans l'économie mondiale.
C'est ça qui est intéressant, c'est effectivement de savoir si le lien est rompu entre la remontée des salaires et la remontée de l'inflation, et si oui, pourquoi, Philippe Simon?
Alors, je suis content qu'on mette la courbe de Philippe sur la table, parce que ça fait 40-50 ans qu'on parle de la courbe de Philippe. Ce n'est pas sans rapport, d'ailleurs, avec l'objectif de 2% d'inflation, parce que Philippe est néo-zélandais. Et nous verrons que l'origine de cet objectif est aussi la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que c'est la courbe de Philippe? Il faut le dire une bonne fois. C'est-à-dire, on met en relation l'inflation et le chômage. C'est-à-dire, plus vous avez d'inflation, moins vous aurez de chômage. Donc il y a des courbes qui ont été tracées, c'est un peu de la manipulation des chiffres, mais enfin disons. Mais le problème, c'est que ces courbes se déplacent dans le temps. C'est-à-dire vous n'avez pas une relation fixe, ça serait trop facile. Sinon, tout le monde aurait réduit le chômage à zéro aujourd'hui. Le problème, c'est que la relation inverse, supposée inverse entre l'inflation et le chômage à un temps donné, se déplace dans le temps.
C'est-à-dire... Vous voulez dire le fait que quand le chômage diminue, les salaires augmentent?
Non, je veux pas dire. Je veux dire qu'il n'y a pas de relation, en fait. Et que c'est un faux semblant, c'est un argument keynésien, typiquement néo-keynésien. Je ne veux pas décrire ce que c'est tout de suite. Mais je veux dire, on ne n'éteint pas le chômage avec l'inflation. Ça n'a strictement rien.
Mais la courbe de Phillips ne dit pas qu'on éteint le chômage avec l'inflation. Elle dit pas du tout ça. Non, la courbe de Phillips, l'article de Phillips Origidate, c'est simplement, en effet, un graphique qui montre une relation négative entre le chômage et l'inflation, mais sans causalité. C'est une observation.
C'est une simple observation. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'était utilisé par les partisans d'une politique inflationniste. Mais bien sûr.
Parce que les partisans de l'inflation savent qu'à long terme, l'inflation n'a pas d'impact sur le chômage.
J'espère bien.
En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de voir que parmi les différentes raisons qui expliquent peut-être cette inflation trop faible, on a la mondialisation, on a les salaires anormalement bas, peut-être aussi les progrès technologiques qui entraînent une baisse des coûts de production. Et ça aussi, ça tire les prix à la consommation vers le bas, Christophe Blau.
Alors effectivement, notre relation qui est de dire généralement quand il y a du progrès technologique, ça crée de la productivité, ça va faire avoir tendance à faire baisser les prix, ou du moins aller moins les faire augmenter. Mais aujourd'hui, cette explication, elle pose un peu problème parce que finalement, si on regarde l'évolution, alors il y a des progrès techniques évidents, si on regarde l'évolution en termes de productivité, finalement, on est dans des économies où la productivité reste assez faible. Donc, a priori, cette logique de désinflation, cette explication serait plus convaincante si en même temps, on observait des gains de productivité importants. Et les mesures des gains de productivité aujourd'hui vont pas dans ce sens-là. Donc, ça pourrait être une explication. Effectivement, on a parlé, par exemple, au 19e siècle, où il y a eu une période aussi d'inflation plutôt basse, mais en lien avec un progrès technique important et qui générait de la productivité forte. Aujourd'hui, on est peut-être pas dans cette même dynamique. Et donc, du coup, c'est pas forcément l'explication pour l'instant qui, à mon avis, est la plus convaincante aujourd'hui.
Et l'autre explication qu'on peut éventuellement apporter, c'est le vieillissement de la population, le fait que la population soit aujourd'hui moins encline à la dépense dans les pays développés, Agnès Benassi-Kéré.
Oui, alors il y a un sujet effectivement de niveau de l'épargne mondiale. On a beaucoup de pays qui épargnent et pas tant que ça, qui ont besoin qui investissent beaucoup. Et donc le déséquilibre se fait au niveau mondial entre l'épargne et l'investissement. L'investissement est un élément de la demande, alors que l'épargne se soustrait à la demande. Donc on voit bien que ça va avoir un impact sur les prix. Et c'est un ensemble, c'est-à-dire que les taux d'intérêt très faibles qu'on a sont aussi partiellement expliqués par... le vieillissement et donc le fait qu'on a une population importante qui est en phase de sa vie qui épargne.
Alors on va. Oui, vous avez parlé.
Oui, je conteste.
Philippe Simonneau.
Excusez-moi, cher ami. Non, mais c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on a des pays excédentaires en balance des paiements. Ça s'est vu au 19e siècle, par exemple. La France et l'Angleterre étaient en excédent de balance des paiements. Ce qui se passait, c'est qu'il va en face des pays déficitaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, en ce moment, la demande et faible investissement. Il y avait un équilibre qui se faisait au niveau international entre cette épargne.
Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Il y a des pays excédentaires, des pays déficitaires, forcément.
Le problème, c'est un manque d'investissement. Oui, c'est ça.
Oui.
Mais c'est le problème qu'il faut poser. Pourquoi les entreprises n'investissent pas ?
Eh ben, on va poser cette question. Ah, ça fait partie des questions importantes. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire, justement, de cette fameuse cible des 2%. Vous avez commencé à parler de la Nouvelle-Zélande, Philippe Simonneau. À quel moment la politique monétaire des banques centrales, Christophe Blow, est-elle devenue une politique de maîtrise de l'inflation ?
Il y a un changement assez radical, en fait, à la fin des années 70, en termes de mise en pratique, avec notamment l'arrivée aux États-Unis de Volcker comme président de la Banque centrale américaine, qui a fait effectivement de l'inflation son objectif prioritaire. Donc, si on remonte un peu en avant, finalement, à la sortie de la guerre, on avait des banques centrales qui cherchaient à soutenir l'emploi et qui également s'intéresser à l'inflation, mais du coup essayer d'utiliser finalement cet arbitrage inflation-chômage issu de la courbe de Phillips dont on parlait tout à l'heure.
Désormais, l'inflation devient prioritaire.
Voilà, à la fin des années 70, avec des travaux théoriques, des travaux monétaristes, effectivement, de...
On va laisser finir Christophe Blow.
Effectivement, sur finalement, à long terme, tout ça ne permettra pas d'arriver à réduire le chômage au niveau où on veut, et l'inflation ne ferait que créer de l'inflation. Et donc, dans une période où, effectivement, début des années 70, où l'inflation augmente, on a des inflations à deux chiffres dans de nombreux pays industrialisés, les banques centrales, finalement, réorientent un peu leur politique monétaire avec un accent beaucoup plus fort marqué sur l'inflation. Et donc, ça s'est traduit notamment aux États-Unis par une augmentation très forte des intérêts, des taux d'intérêt qui a plongé l'économie américaine en récession, qui a contribué à plonger l'économie américaine en récession. Et finalement, l'inflation a baissé.
Mais effectivement, à ce moment-là, il y a une peur de l'inflation. C'est l'idée qu'une forte inflation nuirait à la croissance et aussi à la répartition équitable des revenus.
Oui, effectivement, l'idée que cette inflation trop élevée est peu efficace en termes économiques. C'est-à-dire que finalement, on n'arrive pas à obtenir moins de chômage, et pour autant, on a une inflation qui continue à augmenter, qui est même un peu rampante, c'est-à-dire qu'elle s'accroît. Donc finalement, c'est à ce moment-là que les banques centrales disent, finalement, les politiques qu'on a mises en œuvre jusqu'ici sont peut-être pas nécessairement adaptées, il faut réorienter. Et alors, il y a aussi tout un tas de travaux théoriques qui sont venus alimenter ce débat sur l'arbitrage inflation-chômage et les effets de la politique monétaire à long terme, qui sont venus finalement nuancer un peu le consensus qui prévalait dans les années 50-60. Et donc le consensus s'est déplacé sur un objectif premier qui est l'objectif d'inflation. Pas nécessairement ciblé au départ, mais l'idée c'était bien de réduire l'inflation et progressivement, ça aussi, on a retrouvé la même logique dans d'autres banques centrales avec la mise en avant plus de façon quasi systématique de l'objectif d'inflation dans les objectifs assignés aux banques centrales.
Et alors, à quel moment on a cette cible des 2% qui est fixée et comment est-ce qu'elle est fixée, Agnès Benassi-Kéré ?
Alors, Christophe Blow a expliqué pourquoi il fallait pas avoir une inflation trop élevée. Hein. C'est inefficace du point de vue économique, ça entraîne aussi des inégalités. Puis, en bas de l'échelle des salaires, on a tendance à avoir des revenus qui ne sont pas bien indexés et donc une augmentation des inégalités. Maintenant, ce qui est moins intuitif peut-être pour les auditeurs, c'est pourquoi est-ce qu'une inflation trop basse pose problème. Finalement, pourquoi la stabilité des prix, c'est pas l'inflation zéro, hein. Et je pense qu'il y a deux arguments très forts. Le premier, c'est de dire que l'économie n'est pas homogène, très hétérogène. Il y a des entreprises qui vont bien, des entreprises qui vont moins bien, des gens qui se réallouent entre secteurs, etc. Et on sait par des travaux qui ont été réalisés que dans une entreprise qui ne va pas très bien, c'est extrêmement difficile de baisser les salaires nominaux. C'est-à-dire celui qui est écrit en bas de votre feuille de paye. C'est difficile de vous dire, bon, bah, l'entreprise va pas très bien, maintenant on va baisser de 3% tous les salaires.
Le salaire nominal qui est donc ce salaire qui n'est pas corrigé de l'inflation.
Et voilà. Alors, avoir un petit matelas d'inflation, ça permet dans une entreprise qui va pas très bien de dire, bon, cette année, il n'y aura pas de hausse de salaire. Et celles qui vont bien vont augmenter les salaires. Et comme ça, on a des petits ajustements. Voilà, c'est un peu d'huile dans les rouages de l'économie, de manière à éviter à une entreprise qui temporairement va pas très bien, de fermer, tout simplement.
Et c'est dans ce contexte qu'on s'est dit 0%, ce n'est pas possible. Mais voilà. Alors 2%, ça marcherait
parce
bien.
Parce que 0%, c'est la moyenne de hausse de prix. Donc il y a des entreprises dont les prix augmentent, des entreprises dont les prix baisseraient dans ce cas-là, si la moyenne doit être zéro. Et voilà, ça c'est un argument. Il y a un deuxième argument qui est par rapport au taux d'intérêt. C'est très difficile de mettre un taux d'intérêt négatif. Hein. Vous avez des billets de banque dans votre portefeuille et ils ont un taux d'intérêt zéro. C'est très compliqué d'aller mettre un taux d'intérêt négatif sur les billets de banque. Donc on voit qu'il y a des tas de problèmes sur le taux d'intérêt négatif. On va peut-être y arriver, hein, on est en train, pour les grandes entreprises.
On y est déjà dans une certaine mesure.
Dans une certaine mesure, mais bon, pas pour disons les moyens de paiement pour l'instant. Et dans ce contexte, le taux d'intérêt qui compte, c'est pas le taux d'intérêt nominal auquel vous empruntez ou auquel vous prêtez. C'est la différence entre ce taux et l'inflation. Encore une fois, parce que l'inflation, c'est l'augmentation de tous les prix à la fois, et donc aussi des revenus des ménages, des entreprises. Et donc pour un même taux d'intérêt, plus l'inflation est forte, plus le taux d'intérêt réel sera faible. Et donc, une fois qu'on est à zéro sur taux d'intérêt, la seule solution, c'est que si on veut encore stimuler l'économie, c'est qu'il y a un peu plus d'inflation. Donc ça donne de la marge, si vous voulez, à la politique monétaire qui, autrement, serait extrêmement contrainte, notamment aujourd'hui.
Mais alors, ce que vous dites, Philippe Simonneau, c'est que ce chiffre de 2%, cette cible de 2% d'inflation ne vous paraît pas pertinente.
Ah, je ne suis pas seul à dire. Jacques Delarosière, l'ancien directeur du FMI et ancien gouverneur de la Banque de France, l'a écrit dans toutes lettres dans un récent article des Échos, et j'approuve totalement ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'en effet, ça n'a pas de sens. L'image que vous donnez, cher ami, de un peu d'huile dans les rouages, excusez-moi, c'est une métaphore qui n'a pas de correspondance dans la réalité. Je vois pas pourquoi l'économie serait comme une machine faite de rouages et qu'en mettant un peu d'huile, on permettrait que ça tourne plus facilement. En fait, vous l'avez dit vous-même, cette inflation même faible permet à des entreprises qui devraient faire faillite de rester en vie. C'est-à-dire que.
Et pour vous, c'est une mauvaise idée.
C'est une mauvaise idée parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ça se multiplie, ce qu'on appelle les entreprises zombies. C'est-à-dire que cette politique à tout prix inflationniste permet le maintien d'entreprises qui sont normalement auraient dû faire faillite, auraient dû cesser leur activité. Ce qui empêche l'innovation, ce qui empêche justement l'adaptation de l'appareil de production aux réalités.
Donc pour vous, il faudrait laisser faire le marché.
C'est pas évidemment, il faut laisser faire le marché, c'est pas la question.
Je veux dire, il faut cesser. C'est une politique volontariste en l'occurrence de la part de la BCE d'essayer de relancer l'inflation.
Oui, sauf que ça n'aboutit à rien, on l'a bien vu d'abord. Mais je veux dire que il y a une espèce de, il faut voir d'où ça vient. Il y a une phobie de la déflation. On va employer ce gros mot qui est la déflation. La déflation, c'est l'horreur pour tout le monde, n'est-ce pas? Et s'il y a un consensus dans les pays occidentaux, c'est même peut-être mondial, c'est sur cette déflation qui serait le mal absolu.
Qu'elle entraîne une forte hausse des inégalités.
Mais non, pas du tout. Laissez-moi terminer. Donc la déflation, on l'a connue dans d'autres régimes. Au 19e siècle, il y a eu des périodes déflationnistes, des périodes inflationnistes. Ça n'a en aucune façon empêché le progrès économique, ça n'a en aucune façon empêché la croissance. Pourquoi il y a cette phobie de la déflation? Parce que il y a une espèce de ressentiment à l'égard des créanciers. En fait, c'est vieux comme le monde. Et à qui profite cette inflation d'abord? Au principal débiteur, qui est l'État. Voilà, je rappelle ces deux termes.
Alors, c'est important de souligner cette notion. Je voudrais faire réagir effectivement Agnès Benassi-Kerré.
C'est tout à fait vrai que l'inflation, plus exactement l'écart entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation, va déménager du pouvoir d'achat des créanciers vers des débiteurs ou des débiteurs vers les créanciers. Et aujourd'hui, il est vrai que pour sortir l'économie du marasme, il est bon que les débiteurs puissent avoir un peu une planche de salut. Si vous voulez rembourser votre dette et que vos revenus diminuent, c'est assez difficile. Or, si le système financier est relativement fragile, si les débiteurs commencent de manière massive à ne pas rembourser leurs dettes, y compris l'État, il va y avoir plus de mal que de bien.
Et pour revenir sur l'histoire et sur le fait que la Nouvelle-Zélande a effectivement peut-être inauguré aussi dans les années 80 cette méthode qui consiste à annoncer publiquement les objectifs d'inflation. Je voudrais faire réagir Christophe Blostein, s'il vous plaît.
Oui, il y a effectivement à la fois, donc comme on le disait tout à l'heure, la mise en avant de l'objectif d'inflation comme objectif principal des banques centrales, donc qui émerge progressivement dans les années 80. Et donc on voit aujourd'hui par exemple avec la Banque Centrale Européenne qui a une hiérarchie dans ses objectifs, avec son premier objectif qui est de promouvoir la stabilité des prix, et ensuite de faire en sorte de veiller à l'ensemble des objectifs de l'Union Européenne. Et ensuite, il y a la question de la quantification de cette cible. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on dit 2%? Et donc ça, effectivement, c'est apparu un peu plus tard, donc dans la fin des années 80, où progressivement, on a convergé vers ce chiffre de 2%. Alors, il faut le dire, effectivement, il n'y a pas ce chiffre de 2%, il n'y a pas un modèle précis qui vous permet de dire que c'est le chiffre optimal. Il n'y a pas de travaux, enfin, s'il y a des travaux qui vont chercher à quantifier l'inflation optimale, mais ces travaux vont faire place, vont avoir un certain nombre d'incertitudes. Donc, globalement, on ne sait pas quel est le bon chiffre d'inflation. Il y a une convergence aujourd'hui, un accord sur 2%, mais ce 2%, c'est pas quelque chose qui doit être figé dans le temps et un sacro-saint. Comme on disait tout à l'heure, il y a effectivement des coûts à avoir une inflation trop élevée. Donc, quand on a des inflations à deux chiffres ou des périodes d'hyperinflation, donc ça, effectivement, ça va miner le fonctionnement économique, ça va créer de fortes volatilités sur les marchés, ça va avoir des impacts redistributifs importants. Mais de la même façon, la déflation, comme on l'a vu aussi, pose un certain nombre de problèmes. Donc, la question, c'est de trouver un peu ce bon équilibre entre finalement une cible qui n'est pas trop basse pour éviter les périodes de déflation qui sont souvent associées à des périodes de marasme et de dégradation de la situation économique et des périodes et des moments d'inflation plus élevés. Et donc on est arrivé à ce chiffre alors autour de 2% fait vers lequel finalement l'ensemble des banques centrales aujourd'hui convergent, mais effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le bon chiffre ou pas, est-ce qu'il faut que ce soit un peu plus élevé ou pas.
Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, ça a été très suivi. Aujourd'hui, il y a énormément de pays qui ont cette cible d'inflation de 2%, Philippe Simonneau.
La politique de 2% d'inflation suit et la conséquence de l'échec d'une autre politique qu'il faut rappeler, c'est la politique monétaire, de la masse monétaire. C'est-à-dire que jusqu'à cette invention de cet objet abracadabra qui est l'objectif de 2% d'inflation, les banques centrales se fixaient sur la masse monétaire. Mais comme personne n'était capable de définir quel était le bon indice de la masse monétaire, et qu'à chaque fois qu'on ciblait un indice M2, M3, je rentre pas dans les techniques, dans la définition même de la masse monétaire, on s'apercevait que un peu comme le principe d'Eisenberg, la matière disparaissait, n'est-ce pas? À partir du moment où vous aviez un objectif, la matière s'évanouissait, la cible s'évanouissait. Donc on a renoncé à cette politique. Et par facilité, je sais pas, par démagogie, on a fixé cet objectif de 2%, qui aujourd'hui, c'est quand même clair que ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ça ne fonctionne pas. Et alors maintenant, Larosière reconnaît c'est important. Revenons à 1%, qui est tout aussi absurde.
Agnès Benassiguerre.
Le problème, c'est que si on fixe 2% et qu'ensuite on dit « Ah, on n'y arrive pas, bah, finalement, ça va être 1%, bon, autant rien fixer. » Parce que
tout à fait.
Dès qu'on n'arrive pas à la cible, on change de cible, c'est comme si on n'avait pas de cible.
Alors, on peut aussi considérer que le 1% correspond plus à la conjoncture économique mondiale.
Moi, je pense que c'est très important de garder la cible. Je pense que c'est très, très important parce que il ne faut pas oublier que la Banque Centrale Européenne est indépendante. Et donc, il faut lui assigner un objectif clair et la juger par rapport à cet objectif clair. Au passage, je voulais dire que ce n'est pas totalement évident de dire qu'elle a échoué, même si, objectivement, le taux d'inflation est largement en dessous de 2%, parce que ce n'est pas évident de savoir quelle aurait été l'inflation en l'absence de toutes ces politiques non conventionnelles.
Ce
serait peut-être 0 ou moins 1%.
Et on peut aussi juger que la croissance depuis la crise de 2008 est quand même revenue.
On revient au camouflage par lequel je commençais.
Vous parlez de camouflage. C'est une politique avec un impact, donc c'est pas du camouflage. Elle est relativement transparente dans ce qu'elle fait.
Non, je parle de l'indice des prix.
Mais sur cet échec, vous disiez, enfin du coup, vous remettiez en question cette idée d'un échec de la Banque Centrale Européenne.
C'est-à-dire que, moi je pense que l'inflation à 1% c'est trop bas, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Maintenant, mettre tout sur le dos de la Banque Centrale Européenne pose deux problèmes. Premièrement, si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, peut-être que l'inflation aujourd'hui sera à zéro. Et deuxièmement, elle n'a pas été aidée par les politiques budgétaires. Et donc on voit, on redécouvre aujourd'hui, et ça c'est aussi un retour un peu en arrière par rapport à l'histoire de la pensée économique, on redécouvre que peut-être la politique monétaire et la politique budgétaire peuvent se parler et essayer d'agir ensemble, de concert, pour atteindre les objectifs.
On va parler effectivement de comment la politique budgétaire peut éventuellement prendre le relais de cette politique monétaire, on en parle dans un instant.
Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Hey, Mr. President, all you congressmen too, you got me frustrated and I don't know what to do. I'm trying to make a living, I can't save a cent, it takes all of my money just to eat and pay my rent. I got the blues, got those inflation blues. You know, I'm not one of those highbrows, I'm average Joe to you. I came up eating cornbread, candied yams and chicken stew. Now you take that paper dollar, it's only got a name. The way that buck is struck, it's a low-down dirty shame. That's why I got the blues, got those inflation blues. Yes, I have.
C'est le blues de l'inflation chanté par B.B. King, suite de notre débat sur la hausse des prix dans l'économie. Agnès Benassi, Kéré, Philippe Simonneau et Christophe Blot sont toujours avec nous. Alors aujourd'hui, on l'a vu, la Banque Centrale Européenne justifie sa politique monétaire par la nécessité de relancer l'inflation qui demeure trop basse. Et parmi ces différentes mesures prises par la BCE, il y a cette politique de taux bas. Mais on peut se demander aujourd'hui si c'est soutenable de maintenir ainsi des taux d'intérêt durablement bas ou négatif, Christophe Blot ?
Oui, c'est soutenable d'avoir des taux d'intérêt bas. On voit au Japon, il y a des taux d'intérêt très bas depuis très longtemps. Après, est-ce que c'est efficace ou pas et est-ce que ça va permettre vraiment d'atteindre... Est-ce que c'est une mesure suffisante pour atteindre la cible ? C'est une autre question, mais a priori, il n'y a pas de problème en termes de soutenabilité de ce type de mesure. Ensuite, donc il y a la question de est-ce qu'il faut accompagner ces mesures d'autres mesures ? On a parlé effectivement juste avant de politique budgétaire. Il y a une question de la gestion globale de la demande et de la coordination éventuellement entre la Banque centrale et les autres acteurs du jeu de politique économique. Et puis ensuite, il y a la mise en balance entre les effets positifs attendus de cette politique monétaire expansionniste et de ces taux très bas et éventuellement les effets négatifs qui sont parfois mis en avant sur en termes d'évolution des prix des actifs financiers ou en termes d'inégalité aussi dans un certain nombre de cas.
Parce qu'effectivement, on peut se demander comment, enfin tout dépend de comment les entreprises vont utiliser cet argent. Vous parliez tout à l'heure, Philippe Simonneau, de cette question. Est-ce que les les entreprises vont profiter de cet argent qui coûte peu cher pour investir ou pour racheter des actions, pour se posséder elles-mêmes en quelque sorte.
Non, il faudrait d'abord, on parle des difficultés actuelles, dire un mot des dégâts de cette politique monétaire, de cette politique de 2% d'inflation, de cette politique d'intérêt négatif sur nos systèmes bancaires en Europe. Parce que la grande différence entre justement les États-Unis et l'Europe, c'est que les banques européennes sont beaucoup plus fragiles que les banques américaines, à cause justement de cette politique. Or, à ceci s'ajoute que aux États-Unis, on a fait le ménage des banques, qu'on n'a pas fait en Europe. D'ailleurs, les deux choses sont liées d'une certaine façon.
Mais quand vous dites que ça fragilise, mais pour bien comprendre, Philippe Simonot, quand vous dites que ça fragilise les banques commerciales, vous voulez dire que les banques commerciales gagnent moins d'argent d'intérêt bas.
Elles n'ont plus de marge. Ouais. Les marges bancaires ont été réduites considérablement. Il faut savoir aussi, et ceci explique peut-être cela, c'est que les structures économiques des deux grandes économies du monde sont très différentes. Aux États-Unis, les entreprises s'adressent plus directement au marché financier pour se financer qu'à la banque, qu'aux banques. Alors qu'en Europe, les banques ont un rôle beaucoup plus important dans le financement des entreprises. Autrement dit, si les banques vont mal en Europe, ça se répercute sur l'ensemble des entreprises. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent que la prochaine crise va démarrer en Europe.
Mais alors, est-ce que les banques vont mal ? C'est la question, Christophe Blot.
Est-ce que les banques vont mal? Alors certaines banques vont mal, effectivement.
À cause de la politique d'intérêt,
pas nécessairement. Elles peuvent aller mal parce qu'elles ont des créances douteuses pour tout un ensemble de raisons. Mais est-ce que la politique de taux d'intérêt bas y est fondamentalement pour quelque chose? En fait, les banques ont plusieurs sources de rémunération. Effectivement, elles se rémunèrent sur la marge d'intérêt. C'est-à-dire qu'elles rémunèrent les dépôts ou elles empruntent de l'argent sur les marchés ou auprès de la Banque Centrale Européenne et elles font des crédits. Et donc, une partie de leur profit et de leur rémunération, c'est l'écart entre le taux auquel elles vont prêter et le taux qu'elles payent pour se financer. Donc, effectivement, ce qu'on observe, c'est pas uniquement les taux négatifs, c'est qu'en fait, c'est globalement ce qu'on appelle l'aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux longs sont bas et les taux courts sont bas aussi, à peu près à un niveau identique. Et donc ça laisse moins de possibilités aux banques de faire finalement de la marge entre ce qu'elles vont proposer comme taux de crédit et ce qu'elles ont comme taux, comme coût des dépôts. Mais c'est pas la seule source de profit. Les banques ont aussi tout un tas de profits par finalement des marges en dehors de la marge d'intérêt, par des commissions qu'elles vont prélever. Les banques font aussi des profits sur la gestion des actifs. Et donc les banques ont beaucoup fait de lobby auprès de la Banque Centrale Européenne pour dire que ces taux bas les pénalisaient, mais en fait, ce qu'elles n'ont pas dit, c'est que peut-être que ça a joué sur leur marge d'intérêt, mais qu'en même temps, si on regarde l'ensemble de la profitabilité des banques, elle ne s'est pas nécessairement dégradée avec la mise en place de taux négatifs. Si on regarde en fait un certain nombre de travaux aujourd'hui qui existent sur l'impact des taux négatifs sur la profitabilité des banques, il n'est pas montré de façon certaine que ça va réduire la profitabilité des banques. Dans certains cas, en fait, il y a des travaux qui montrent que effectivement, ça joue sur la marge d'intérêt, mais elles ont compensé par d'autres sources de profit. Ensuite, ce qu'il faut dire pour compléter, c'est que les taux bas et en fait les programmes d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne ont fait monter le prix des obligations. Et donc les banques aussi, certes les taux, les rendements sont moins bas, mais elles ont pu vendre un certain nombre d'obligations et d'actifs à des prix plus élevés, ce qui est aussi une source de profit. Donc il n'est pas sûr qu'il faille mettre en accusation cette politique de taux bas, au moins pour la santé des banques.
Agnès Benassikeri, sur l'impact de cette politique de taux bas sur les banques.
Là, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais que la dernière décision de la Banque Centrale Européenne comprend un système à deux étages sur la liquidité qui est déposée à la Banque Centrale. Bon, alors, il faut voir comment ça marche. Les banques ont chacune un compte bancaire, comme nous avons un compte bancaire à la banque, une banque commerciale. Les banques commerciales ont un compte bancaire à la Banque Centrale. Et c'est ce qu'on appelle la liquidité. Et il a été décidé que cette liquidité, au lieu d'être rémunérée à des taux légèrement négatifs, il y aurait l'essentiel qui serait rémunéré, pas rémunéré, c'est-à-dire à taux zéro. Enfin, en tout cas, c'est pas négatif, c'est-à-dire que la banque ne paye pas pour laisser son argent.
Ce sont des mesures de protection des banques.
Voilà, et ça protège un tout petit peu, c'est pour protéger un tout petit peu les marges d'intérêt des banques.
Il faut dire que vous avez fait payer avant.
Alors, absolument, oui. Mais ça reste en marginal. C'est-à-dire que l'idée, c'est sur l'essentiel de leur liquidité, elles ne paieront pas. Et bien, par contre, si elles veulent encore déposer encore plus que 6 fois, je crois, les réserves obligatoires, Et bien là, elles devront payer. Ce qui permet à la fois de améliorer un tout petit peu les marges et de les inciter à ne pas laisser, c'est ça le point de la Banque Centrale Européenne, de ne pas laisser cette liquidité dormir dans leur compte et de le faire circuler au contraire dans l'économie réelle.
Alors il y a la question des banques, mais il y a la question effectivement de l'économie dans son ensemble. On peut se demander si cette politique de taux bas ne soutient pas que la consommation. Est-ce qu'elle soutient vraiment l'ensemble de l'économie, Philippe Simoneau ?
Non, mais genre le point, pourquoi Draghi a fait cette petite mesure pour alléger un peu les banques, c'est qu'il y avait vraiment un problème. C'est pas... Il n'est pas fou quand même. Il a bien vu qu'il y avait un problème bancaire. Donc il a lâché un peu de lest sur cette petite manipulation de taux.
Et plus largement sur l'impact de cette politique de taux d'intérêt sur l'économie ?
Eh bien, nous voyons les résultats. Je veux dire qu'il n'y a pas de croissance, il y a un malaise bancaire. Peut-être pas toutes les banques, évidemment, mais un malaise bancaire. Et on ne voit pas l'issue, je dirais. Et n'oublions pas l'inflation des actifs. L'immobilier, la spéculation, etc., qui arrivent à des sommets et qui empêchent, du coup, des gens de se loger correctement.
Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a des débats au sein de la BCE pour une refonte de la gestion de l'inflation. Et alors, l'idée qui a été annoncée par Mario Draghi en juillet serait de rendre l'action de la BCE, je cite, « symétrique ». Alors, qu'est-ce que ça signifie, Christophe Blot ? Est-ce que ça constitue un véritable changement pour la BCE ?
Non, je crois pas. Alors, sauf si j'interprète mal les propos de Mario Draghi, ce qu'il semble avoir dit, c'est simplement qu'aujourd'hui, finalement, la définition précise de l'objectif d'inflation, c'est une inflation proche mais inférieure à 2%. Donc ça, c'est ce que la Banque Centrale avait dit jusqu'ici. C'est-à-dire que voilà comment elle définit son objectif et comment elle quantifie cette cible d'inflation. Donc, ce que ça indique, en fait, ici, le message envoyé par Mario Draghi, c'est de dire que la Banque Centrale Européenne mènera une politique expansionniste tant qu'on sera inférieur à 2%. Et donc, ça veut dire aussi, on va chercher à être réactif si l'inflation dépasse 2%, ce qui n'est pas le problème aujourd'hui, d'accord, par des politiques monétaires restrictives. Mais on va aussi chercher à être réactif lorsque l'inflation est durablement en dessous de 2%. Et donc, il a accompagné, finalement, ce message-là par un autre message qui est important en matière, finalement, d'annonce sur l'orientation future de sa politique monétaire, qui est de dire, je vais maintenir cette politique monétaire très accommodante, jusqu'au moment où l'inflation convergera vraiment vers 2%. D'accord ? Et donc là, il envoie le signal que la cible, c'est toujours 2. Et donc, on est très réactif quand on reste en dessous de 2, de la même façon qu'on s'attend à ce que la Banque Centrale Européenne soit réactive par des politiques monétaires plus restrictives quand l'inflation est supérieure à 2%.
Donc, c'est l'idée de dire que cet assouplissement monétaire va exister longtemps et là pour longtemps, Agnès Benassi-Kerré ?
Oui, alors, il faut rappeler quand même que ce qui est écrit dans le traité. Le traité dit l'objectif de la Banque Centrale doit être la stabilité des prix. Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité des prix ? La BCE a dit inférieur à 2%, mais proche de 2%. C'est pas arrivé tout de suite, mais enfin, on est arrivé à ça.
C'était
mais
en 2003.
En fait, les autres pays qui font du ciblage de l'inflation, ils ont un objectif autour. Donc, l'équivalent, ce serait autour de 2%. Donc, entre 1 et 3. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que si Mario Draghi et son successeur disent...
Christine Lagarde,
on remontera les taux d'intérêt quand on sera proche de 2%. Ou alors s'ils disent, on remontera les taux d'intérêt quand on sera passé au-dessus de 2%. C'est pas la même chose en matière d'anticipation d'inflation. Et encore une fois, ce qui est important, c'est l'écart entre l'anticipation de l'inflation et le taux d'intérêt.
Ce qui est vrai, que c'est ce qu'on a pu entendre, c'était que la BCE préférait une inflation autour de 1% plutôt qu'elle dépasse 2%.
C'est voilà. Alors au moment de la crise, Olivier Blanchard a jeté un pavé dans la mare en disant, il faudrait remonter la cible à 4%.
Olivier Blanchard qui était à ce moment-là au FMI.
Voilà. Justement pour éviter un effondrement qu'on a connu des anticipations d'inflation. Bon, alors, quand on n'arrive même pas à atteindre 2%, c'est sûr que dire c'est 4%, ça paraît un peu théorique. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de remonter les anticipations pour redémarrer la machine. Si les gens pensent que l'inflation va remonter, ils vont se remettre à emprunter, ils vont se remettre à consommer parce qu'ils ont peur que les prix montent, etc., etc.
Et l'objectif, c'est peut-être aussi d'inciter à des pays comme l'Allemagne à faire de la relance budgétaire, Christophe Blot ?
Bah, effectivement, il y a un point, c'est que finalement, ce que fait la politique monétaire, on l'a dit, c'est d'essayer d'assouplir les conditions de financement, conditions de crédit, en jouant sur les taux d'intérêt, par exemple. Mais en fait, les conditions de financement, c'est qu'un élément qui va déterminer la dépense des agents, que ce soit les entreprises ou les ménages, qui va décider finalement de leur volonté de consommer ou d'investir. D'accord ? Donc finalement, c'est un facilitateur. Mais s'il n'y a pas de demande ou si les entreprises perçoivent que finalement l'horizon est bouché et incertain pour un ensemble de raisons, parce qu'il y a une insuffisance de la demande domestique ou une insuffisance de la croissance mondiale, bah, du coup, même si les taux sont très bas, elles ne vont pas nécessairement investir. D'accord ? Donc la politique monétaire est un ingrédient, mais c'est pas le seul. Et ce qui fait aujourd'hui aussi débat, et c'est une des questions soulevées notamment au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale, mais il y a même quelques années, Mario Draghi avait aussi prononcé cette phrase, c'est que probablement il faut pas uniquement que la Banque centrale soit la seule à faire face à la crise, il faut éventuellement des politiques budgétaires adaptées de soutien à la demande ou des politiques qui vont permettre de redonner confiance aux ménages et aux entreprises pour pouvoir investir. C'est-à-dire que eux, ils ont fait juste en fait leur boulot d'une certaine façon en disant bah nous on va vous permettre de le faire dans de bonnes conditions, mais dans de bonnes conditions financières. Mais si derrière la visibilité n'est pas assurée, si derrière il n'y a pas d'autres éventuellement politiques économiques de soutien à la demande, bah finalement tout ça sera un peu moins efficace. D'où la nécessité éventuellement de discuter, de coordonner les politiques monétaires et les politiques budgétaires.
Philippe Simonneau, oui, sur cette nécessité de coordonner ces deux politiques budgétaires et monétaires.
C'est assez amusant de voir ça quand même. C'est que la politique monétaire est un échec. Et donc la Banque centrale dit, ou la Banque centrale ne le dit pas vraiment, mais elle laisse entendre, beaucoup de gens disent, ah, maintenant il faut refaire du déficit budgétaire, alors qu'on est déjà à des niveaux de déficit.
L'Allemagne pourrait se le permettre.
Attendez, je ne parle pas encore de l'Allemagne, je vais dire un mot de l'Allemagne. Il y a des déficits considérables, le gouvernement Macron vient de reconnaître qu'il n'arrivera pas à réduire son déficit, l'endettement est considérable, on est presque à 100% du PNB en France, on est à 130 en Italie, 135, etc. Et donc, encore une fois, on fait appel au déficit budgétaire, à la vieille recette du déficit budgétaire qui, elle non plus, n'est pas une solution. Bon, alors maintenant, vous me posez la question de l'Allemagne. Une fois de plus, on retrouve la vieille histoire, l'Allemagne paiera. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut que l'Allemagne paye. Et donc, il faut qu'elle fasse du déficit, alors qu'elle n'a aucune envie d'en faire. Il faut se rendre compte que pourquoi l'Allemagne est rentrée dans l'euro ? Souvenons-nous de la charte de départ. Et s'il y a en ce moment une démission... on en est à la quatrième démission au sein de la Banque Centrale Européenne de responsable allemand, c'est pas pour rien.
Une des membres du directeur de la BCE, l'allemande Sabine Lautenschleiger,
ouais,
qui vient de démissionner.
Tout à fait. Bon. Pourquoi il faut revenir au début de cette histoire. Pourquoi l'Allemagne a accepté de rentrer dans l'euro? Parce qu'on lui a dit que l'euro serait aussi bon que le Deutsche Mark, souvenez-vous. L'euro serait aussi bon que le
Deutsche Mark. Elle a imposé une orthodoxie budgétaire très importante, en l'occurrence.
Non, c'est pas... Elle a imposé que le fait que la Banque Centrale Européenne n'a qu'un objectif, la stabilité des prix. C'est dans la constitution de la Banque Centrale et dans le traité. Non, c'est ça. Alors que vous savez que la Fédérale Réserve a un double objectif, le plein emploi et la stabilité. Les Allemands ont imposé que la Banque Centrale Européenne n'ait qu'un objectif.
On peut tout de même se demander aujourd'hui, Agnès Binet-Sikere, si dans la mesure où l'Allemagne peut faire de la relance budgétaire... Monsieur Simonneau. Agnès Binet-Sikere, sur cette possible relance budgétaire en Allemagne.
Sur l'Allemagne, bon, l'Allemagne paiera pour ses propres infrastructures, hein, on ne lui demande pas de payer pour les nôtres. Donc, après, c'est une question interne à l'Allemagne.
Tout à fait.
Et aussi pour la transition énergétique.
Interne, oui, non, ça peut aussi entraîner une forme de relance aussi économique dans toute l'Europe.
Il y a une espèce de paradoxe en Allemagne qui est que les gens se plaignent amèrement du bas niveau des taux d'intérêt, hein, qui est défavorable évidemment aux épargnants qui vivent sur les taux d'intérêt. Alors maintenant, pourquoi les taux d'intérêt sont si faibles en zone euro ? Une grosse partie, c'est justement parce qu'il n'y a pas de déficit en Allemagne et que c'est même pas qu'il y a... Le gouvernement ne fait pas de déficit, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'épargne, il y a énormément d'épargne dans les entreprises. Les entreprises accumulent des profits et n'en font rien. Et donc, il y a la source des taux d'intérêt très bas dans la zone euro, c'est pas que la Banque Centrale Européenne, c'est aussi l'absence de demande des entreprises allemandes et des gouvernements. Maintenant, je voulais reboucler sur la politique monétaire, parce qu'il y a un problème pratico-pratique dans la mise en œuvre des mesures qui ont été décidées récemment, de relance des mesures d'assouplissement quantitatif. C'est qu'en réalité, en Allemagne, la dette publique se réduit à grande vitesse en pourcentage du PIB. Et donc, la Banque Centrale Européenne qui veut en acheter va se trouver très rapidement devant la difficulté à en trouver. Parce que les banques commerciales ont besoin, elles aussi, pour des raisons de réglementation, de détenir de la dette publique.
La dette publique allemande est très... voilà. On ne peut plus lui faire confiance.
Voilà, tout le monde veut cette dette publique, et s'il y en a de moins en moins, eh bien, ça va poser des problèmes. Et c'est là qu'on peut avoir effectivement l'apparition de risques financiers.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Je vous demanderai chacun de conclure en quelques mots, peut-être, sur cette politique, sur la politique monétaire que devrait mener, selon vous, la Banque Centrale Européenne. Christophe Blot, pour commencer.
Je crois qu'effectivement, il faut bien avoir en tête que la politique monétaire est un instrument de régulation macroéconomique qui a aussi des incidences en matière financière dont on n'a pas forcément parlé mais qui sont importantes, mais que finalement, la banque centrale et les banquiers centraux sont pas des êtres tout puissants qui peuvent régler à la fois les problèmes d'inflation, de croissance à eux tout seuls. Donc la question, c'est de savoir quel est le bon policy mix dans la zone euro, c'est-à-dire quelle est la bonne articulation des politiques économiques, politiques monétaires, politiques budgétaires, mais également politiques structurelles, puisqu'on a vu qu'une des explications éventuelles de cette faiblesse d'inflation tient à la situation sur le marché du travail et éventuellement d'un ensemble de finalement déréglementations qui pousseraient les salaires à la baisse ou tout du moins qui entraînerait ces salaires sur une forme de stabilité importante. Et donc la question, c'est de la coordination de cet ensemble de tous ces outils, qui est la solution pour un peu sortir de cette situation où finalement aujourd'hui on a l'impression que tout repose sur la Banque Centrale et on lui en demande beaucoup, et peut-être beaucoup trop.
Pour vous, Philippe Simonneau, il faut en finir avec cet objectif d'inflation de 2%.
Mais il faut en venir à l'achat fondamental, c'est-à-dire à la stabilité des prix. C'est la seule chose qui a un sens pour moi. Parce que on a bien vu que cette politique inflationniste ne mène à rien.
Et donc en finir avec l'objectif d'inflation de 2%, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous ?
Ça veut dire qu'on aura un objectif de stabilité des prix, c'est-à-dire que la Banque centrale aura pour mission de garantir que l'euro reste stable. Voilà.
Agnès Benassi-Kerré.
Alors moi, je voudrais terminer sur une note optimiste. Donc je ne pense pas qu'il faille changer la cible de la Banque Centrale Européenne. Ça ne servira à rien. Et par contre, la bonne nouvelle qu'on a apprise ces dernières années, c'est que la Banque Centrale a plusieurs outils. Il n'y a pas que l'autodirecteur. Il y a plusieurs outils qu'on peut manier. Il y a également, on n'en a pas parlé, mais ont été développés des outils macro-prudentiels, donc pour essayer de compenser les effets éventuellement déstabilisateurs sur les banques, sur les marchés financiers, des politiques monétaires. Alors la question, c'est aussi l'interconnexion de ces différents instruments. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même maintenant une bonne panoplie d'instruments pour un nombre d'objectifs qui n'est pas si élevé que ça. Il y a l'inflation, il y a la stabilité financière.
Merci de nous permettre de finir cette émission avec une bonne nouvelle, Agnès Benassi-Kerré. Et merci, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Philippe Simonneau, Christophe Blot, Agnès Benassi-Kerré. On va continuer à suivre de près la politique menée par la BCE dans les prochaines semaines, avec notamment l'arrivée de Christine Lagarde au poste de directrice le 1er novembre prochain. Un grand merci. Il est 14h52 sur France Culture et nous accueillons aujourd'hui Nairi Nahapession, notre partenaire de l'Alternative économique. Bonjour Nairi.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous allez nous parler de forêt.
Tout à fait. Alors, commençons déjà par une bonne nouvelle. Depuis le 19e siècle, la forêt française n'a cessé de s'étendre. Alors qu'on comptait 8 millions d'hectares de forêt en France en 1830, il y en a 17 millions aujourd'hui, soit plus du double. Donc des zones abandonnées par l'agriculture se reboisent spontanément et on gagne 100 000 hectares chaque année, ce qui fait que la forêt occupe aujourd'hui un tiers environ de notre territoire.
Et alors, est-ce que ça veut dire, Nahiri, que la forêt française est aujourd'hui en pleine forme ?
Non, pas tellement. Avec le changement climatique, l'ONF constate que la mortalité de plusieurs essences s'accentue. Donc c'est un phénomène qui touche particulièrement cette année le Grand Est et la Bourgogne. Et sur les 12 millions de mètres cubes de récolte de cette année, 20% est constitué de bois mort en raison de la sécheresse. Donc les hêtres, les épicéas et les sapins dépérissent après une succession d'années très chaudes et un été 2019 particulièrement éprouvant. Alors en parallèle, un certain nombre de professionnels et de citoyens dénoncent aussi une industrialisation excessive de l'exploitation de la forêt. Le journaliste Gaspard Dallance décrit ce phénomène dans le livre « Main basse sur nos forêts » qui est paru aux éditions du Seuil récemment. Des régions comme le Morvan, les Landes ou le Limousin voient s'étendre la monoculture de résineux et notamment du Douglas. Les couperas et l'usage intense d'herbicides s'y développent. Et plus de la moitié de la forêt française est aujourd'hui constituée d'une seule essence, 80% à moins de 100 ans, ce qui pour un arbre correspond à l'adolescence. Donc ce type d'exploitation en fait fragilise la forêt en appauvrissant la biodiversité et en détériorant la fertilité des sols, et ça a aussi des effets négatifs sur le stockage du carbone.
Et pourtant, il faut bien exploiter la forêt.
Tout à fait. Et dans l'ensemble, on considère que la forêt française est sous-exploitée puisque son renouvellement naturel excède ce qui est prélevé chaque année. Or, si on veut se passer des énergies fossiles, il faut bien développer l'usage de la biomasse obtenue à partir de bois, de végétaux, de déchets agricoles et ménagers. Alors, face à cette contradiction, des mouvements citoyens se constituent pour exploiter la forêt de façon douce et durable. Ils la préservent ou ils plantent des essences variées en s'assurant que le bois est utilisé par des artisans locaux ou des chaufferies décentralisées. Ce sont des professionnels ou des particuliers qui se réunissent, par exemple, dans un groupement comme celui qui s'appelle Chat Sauvage dans le Morvan, qui a acquis 70 hectares depuis sa création en 2015. N'importe qui peut acheter une part qui vaut 200 euros et participer à l'assemblée générale du groupement.
Mais le problème, c'est que ce sont des initiatives à petite échelle.
C'est vrai, mais elles sont d'autant plus intéressantes que 70% de la forêt française est privée. L'ONF n'en gère que 25%. Plus globalement, face au changement climatique, il faudrait investir dans la recherche, protéger, adapter nos forêts en misant sur la diversité des espèces. C'est un enjeu central car la forêt française contribue, ne l'oublions pas, à réduire de 15% les émissions nettes de gaz à effet de serre de notre pays.
Merci beaucoup Nahiri. Et la une d'Alternative économique ce mois-ci ?
Alors, en ce moment, on a les 7 péchés du capitalisme qui est en kiosque. Et la semaine prochaine, on aura un numéro sur le monde selon Piketty.
Merci Nahiri et bon week-end.
Merci. I would have walked through fire to kiss your lips. Do you still think about it, of what you did? Still see your old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been. Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. Was sleeping in a bed full of high, cause you had me so low, low, low. You only some time, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you. Now that I know that wasn't love, that wasn't love, that was just hope. I lose control. I thought I'd get it back when you came back home to me, darling. But I never had it, did I? Your heart's a trick, and all the magic we felt was just a hit. Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. We're sleeping in a bed full of lies.
cause you had me so low, low, low. You only seem tall cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know.
On se quitte avec les Chainsmokers et leur titre Hope. La semaine prochaine, on verra comment la propriété intellectuelle se réinvente dans l'économie numérique. Et au-delà, on parlera des brevets lundi, les brevets au cœur de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.